Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Josué 5, verset 13 et 15. Josué 5, verset 13 et 15.
Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi.
Continue, verset 1, le 6.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, mais Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu seras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Et l'arrière garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné ce ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et fit une fois le tour, puis on entra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble.
Voilà ce métier-là. Merci. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Cette histoire, donc, est une histoire que tu connais, parce que plusieurs fois, on en a parlé sur l'histoire de Jéricho, comment le fameux mur de Jéricho s'est écroulé. Alléluia. Dans cette histoire, il y a un certain nombre de faits importants que nous allons voir ce matin pour comprendre comment, en situation de crise, Dieu conduit son peuple à avoir la victoire. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, vous savez que Israël, donc, sorti d'Égypte, Dieu leur avait fait une promesse. Et quelle était la promesse? C'était de les envoyer dans la terre promise. Donc Dieu a dit à Abraham, d'abord à Abraham, lorsqu'il était bien sûr sur cette terre, Dieu a dit, le lieu que tu foules avec ton pied, c'est un lieu que je te donne en héritage. Plus tard, Moïse donc est venu pour libérer les enfants d'Israël et les envoyer dans ce lieu qu'on appelle terre promise, Canaan. Et vous voyez que Moïse a donc dû, pour explorer la terre promise, envoyer d'abord 12 espions. Vous connaissez l'histoire. Et parmi les 12 espions, il y a Josué et Caleb, deux qui ont fait le bon rapport. Et les 10 autres ont fait un mauvais rapport. Et bien sûr, ils sont morts. Et vous savez que, avec les enfants d'Israël, pratiquement tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. C'est seulement Josué et Caleb qui ont pu avoir accès à la terre promise. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir que, qu'est-ce qui a fait le mauvais rapport? Ou qu'est-ce qui a fondé le mauvais rapport des dix espions? C'est que lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils disent quoi? Qu'ils ont vu des géants. Ils ont vu des fils, Anak, ainsi de suite, il y avait des géants, donc ils ont eu peur et ils ont fait un mauvais rapport. Maintenant, plus tard, plus de 40 ans plus tard, lorsque Josué, bien sûr à la mort de Moïse, a pris la relève et qu'il avait conduit le peuple dans la terre promise, au lieu d'envoyer 12 espions, Josué a envoyé 2 espions au lieu de 12. Parce que Josué a compris la leçon. Vous voyez, c'est très important également que. Il faut que tu comprennes cela ce matin. C'est que vous voyez, avec Dieu, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. C'est-à-dire, Dieu cherche des hommes, il ne cherche pas une multitude. Aujourd'hui, les hommes que nous sommes, on aime bien la multitude. Quand il y a plein de monde, on dit oui, Dieu est là. Mais Dieu n'est pas un homme. Dites amen. Donc, il a compris qu'en son temps, Moïse a envoyé 12 espions, ça n'a rien donné. C'est seulement 2 qui avaient la vision de Dieu dans leur cœur. C'est seulement 2 qui avaient compris quel était le dessein de Dieu pour son peuple. C'est seulement 2 qui ont gardé la foi dans la parole de Dieu. Donc, au lieu que Josué fasse les mêmes erreurs, Josué est allé à l'essentiel. Et quel était l'essentiel? Il a pris le temps de prier et de choisir ceux qui étaient véritablement le choix de Dieu pour cette mission. La Bible dit qu'il a envoyé 2 espions. Et les 2 espions, heureusement, sont revenus et ont fait ce que Josué attendait. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Rahab, on en a parlé déjà. Dites amen. Gloire à Dieu. Maintenant, après cette scène, Josué a envoyé les espions. Les enfants d'Israël devaient passer le Jourdain et entrer dans la terre promise. Parce que Moïse, bien sûr, n'a pas été capable d'entrer dans cette terre promise. Vous connaissez son histoire. Il a frappé le rocher et Dieu s'est fâché. Parce que le rocher, on ne le frappe pas 2 fois. Une première fois, le peuple a eu soif. Dieu a ordonné à Moïse de frapper le rocher pour que de l'eau sorte. Il a frappé. Ça, c'était le symbole de la crucifixion de Jésus. Jésus devait être frappé. Jésus représente le rocher. On devait le frapper pour que de lui, la vie sorte et que nous soyons sauvés aujourd'hui. Ça, c'était le premier symbole. Deuxièmement, dans la marche, le peuple encore s'est révolté et dit, nos bêtes n'ont pas de l'eau à boire. Nous avons besoin de boire. Ils ont commencé à se plaindre. Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, va et satisfais le peuple. Moïse arrive devant le peuple. Moïse fait autre chose. Il donne une image qui n'est pas l'image que Dieu attendait qu'on donne de lui. Parce que, et ça, c'est également un avertissement à tous les sacrificateurs. C'est-à-dire à tous ceux qui sont leaders, pasteurs, prophètes, qui que tu sois. Vous voyez, l'image que nous donnons de Dieu est déterminante pour la suite de la marche que Dieu aura avec nous. Amen. Moïse a présenté une image que Dieu n'a pas voulu donner aux enfants d'Israël. Parce que quand ils se sont plaints et que Moïse est venu voir Dieu, Dieu ne s'est pas plaint. Il a dit, fais ce qu'il te demande. Dieu ne s'est pas fâché. Alléluia. C'est Moïse qui est allé et qui en avait marre de ce que le peuple se plaint trop et qui, dans sa colère, a insulté le peuple et a frappé le rocher.
Dieu dit, mais pourquoi tu donnes une telle image de moi? Parce qu'en te comportant comme ça, les gens vont croire que c'est moi, Dieu, qui suis en train de vouloir refuser à ce peuple ce qu'ils veulent. Bien sûr, il était en connivence avec Aaron. Dieu les a appelés. Dieu dit, bon, c'est terminé avec vous. Alléluia. C'est terminé avec vous. Ils ont demandé pardon. Moïse a prié plusieurs fois pour amener Dieu à changer d'avis. Dieu a dit, cette prière-là, tu peux me demander tout, mais cette prière-là, ne me demande plus. Vous voyez comment Dieu est dangereux? Alléluia. Il dit, tu peux tout demander, mais cette affaire de terre promise, tu veux entrer là. Oublie ça. À un moment donné, il dit, bon, je vais te faire une faveur. Comme tu m'as servi, je vais t'envoyer sur une montagne, c'est là que je vais te tuer. Mais je vais te faire, avant de te tuer, je vais te montrer. Je vais te montrer un peu ce que c'est que la terre promise, et puis je t'enterre. Vous voyez, c'est terrible. Le grand Moïse, regardez, une telle fin. Et Josué, maintenant, il appelle Josué, il prépare Josué, il dit, Josué, prépare-toi, lève-toi. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Tu peux te lever maintenant et tu vas faire le travail. Dis ta mère.
Amen.
Dis Amen plus fort.
Amen.
Jésus prend le peuple et Jésus donc doit passer le Jourdain et faire entrer le peuple dans la terre promise. La parole a été prononcée depuis longtemps que le peuple allait dans cette terre promise. Alléluia.
Amen.
Mais maintenant, dans cette terre promise, la Bible dit quoi? À la veille, quand il a reçu les espions, à la veille de leur entrée dans la terre promise, Josué va prendre un temps de prière devant Dieu. Et au moment d'entrer ou de passer le Jourdain, Josué va apercevoir un homme. C'était un ange. Devant lui, avec une épée. Il va demander à l'homme, es-tu pour nous ou contre nous? Quelle est la réponse du monsieur? Je ne suis ni avec vous, ni contre vous. Je suis pour Dieu. Voilà la réaction que tu dois commencer à avoir en tant que chrétien. Parce qu'il a dit, es-tu avec nous ou contre nous? L'ange n'a pas répondu. Il dit, lui, il est le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, je ne suis ni avec vous, ni avec vos ennemis. Moi, je suis pour Dieu. Donc, si vous êtes pour Dieu, alors je suis pour vous.
Amen.
Voilà la réponse qu'il a donnée. Alléluia. Et voilà ce qui doit être l'attitude de l'Église. Nous ne sommes ni avec X, ni avec Y, mais nous sommes avec Dieu. Et celui qui est pour Dieu, donc, il nous a. Parce que le lieu sur lequel tu tiens, la même parole qu'ils ont prononcée à Moïse au buisson, on lui dit, le lieu est un lieu saint, il faut que tu enlèves tes sandales. Josué exécute. Alléluia. Mais pourquoi l'ange dit à Josué, le lieu est un lieu saint? Parce qu'il s'apprêtait à donner des instructions importantes. Et vous savez, lorsque Dieu doit parler à un peuple, Dieu exige d'abord que le peuple se mette dans une position de sainteté. Ça, c'est inévitable. Tu ne verras jamais Dieu parler à quelqu'un qui est dans une position qui ne permet pas ou qui ne donne pas à Dieu de transmettre le message. Il dit, ôte tes souliers, car j'ai un message pour toi. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est pourquoi, si Dieu doit sauver la Côte d'Ivoire, il est important que l'Église sorte des partis pris pour entrer dans la prière.
Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen?
Pour entrer dans la prière, commencer à intercéder et se mettre dans une posture d'habit, de tampon. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Alors, dès que Jésus exécute, qu'est-ce que l'ange lui dit? Lis-moi ça.
Devant les enfants d'Israël.
Oui.
Personne ne sortait et personne n'entrait.
On dit personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho était barricadé, était une forteresse. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Alléluia, merci. Alléluia. Mais regardez ici, quand vous prenez Jéricho, Jéricho se trouvait dans la terre promise. Donc Jéricho faisait partie de l'héritage des enfants d'Israël. Parce que lorsque Dieu leur a dit, ou a dit à leur grand-père Abraham, le lieu que ton pied foule, je vais te donner ça en héritage, ils ont le livre. Donc ils ont vu la prophétie. Ils savaient que ce lieu-là était leur héritage. Donc Jéricho était dans leur héritage. Mais bien que Jéricho soit leur héritage, Jéricho était une forteresse, Jéricho était déjà prise. Est-ce que tu n'as jamais expérimenté ce fait-là? Quelque chose est à toi, mais quelqu'un a pris. Quelque chose t'appartient, mais c'est dans la main de quelqu'un d'autre. Un territoire pour toi, mais occupé. Donc c'était leur territoire, mais le territoire était occupé. C'était leur territoire. Mais on dit personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. C'était une forteresse. Et ce matin, il y a des forteresses qui vont tomber. Je dis, il y a des forteresses qui vont tomber. Dis amen. Quel que soit l'héritage que Dieu t'a donné, s'il y a quelqu'un sur cet héritage-là, ce matin, il va laisser tomber. Ton amen ne me convainc pas. La santé que Dieu t'a donnée et quelqu'un est venu occuper avec la maladie, je dis, ce matin, il va te lâcher. La prospérité que Dieu t'a donnée, quelqu'un est venu prendre ton territoire et à installer autre chose que la volonté de Dieu. J'ai dit ce matin, il te lâche en dehors. Jésus. C'est-à-dire, ce n'était pas une occupation simple. C'était une forteresse. On dit personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Peut-être que ta vie ressemble à cette image que je vais vous donner maintenant. C'est-à-dire, tu es arrivé à un point où les difficultés sont devenues tellement fortes que les gens ont tout fait pour t'aider et n'arrivent pas. La forteresse est devenue une cité. Mais on va percer le mur ce matin. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Les forteresses établies également dans la Côte d'Ivoire vont tomber ce matin. Dis amen plus fort que ça. Alléluia. Jéricho, donc, quand vous prenez le nom Jéricho, Jéricho veut dire la ville du palmier. C'est-à-dire une ville où il y a des bonnes odeurs. Vous voyez, la Bible dit c'était une ville où il y avait des bonnes odeurs, mais c'était une ville où personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Donc, l'ennemi avait barricadé Jéricho. Alors que c'était l'héritage des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Je vois plusieurs ici. Ton héritage, quelqu'un assis dessus. Mais, au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui apporte de la délivrance, je dis ce matin, là où quelqu'un s'est assis sur ta bénédiction, je commande qu'il se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande qu'il se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton héritage te revienne. Personne n'a le droit de prendre ce qui t'appartient. Non, c'est pas ainsi que Dieu a établi les choses. Ce qui t'appartient, t'appartient. C'est pourquoi il dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En d'autres termes, ce que le ciel n'a pas donné à un homme ne lui appartient pas. Mais quand le ciel t'a donné, ça t'appartient. Et quand ça t'appartient, personne ne peut te prendre et n'a le droit de te prendre. Tu as le droit légal pour réclamer les choses et tu l'auras. C'est juste là, tu n'as pas encore reçu ce qui t'appartient, c'est parce que tu n'as pas encore réclamé. Parce que si ça t'appartient réellement, si c'est le ciel qui t'a donné, il n'y a pas un homme sur terre qui peut te prendre ce qui t'appartient. C'est pourquoi si tu es là, tu peux être une femme, peut-être quelqu'un en train de prendre ton mari, faut pas faire par là. On ne peut pas toucher à ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Qu'est-ce qu'on avait dit à même tout ça? Quelqu'un en train de prendre ton argent ou prendre tes contrats, ce qui t'appartient, t'appartient. Et quand Dieu t'a donné, on ne peut plus te prendre la chose. C'est pourquoi, vous voyez, frère, ne luttez pas pour ce qui ne vous appartient pas. C'est une perte de temps de lutter pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu perds ton temps. Parce que ce qu'un homme, ce que Dieu n'a pas donné à un homme, s'il prend, ça va le détruire.
Amen.
Ça va te détruire. Il ne faut même pas essayer. Si la seule chose que tu ne dois jamais faire, c'est chercher à prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ne lutte pas ce qui appartient à un homme. Il est béni. Gloire à Dieu pour sa vie. Alléluia. Pour toi arrive. Dis amen pour moi arrive. Alléluia. 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 Jéricho était dans la terre promise. Les enfants d'Israël, c'était leur héritage. Mais ils ne pouvaient pas parce que la ville était fortifiée. Deuxième élément également concernant Jéricho, c'est que Jéricho était donc une terre. Bien sûr, j'ai dit la terre promise était située dans la terre promise. Mais la Bible dit que les entrées étaient fortifiées. On ne pouvait ni entrer ni sortir. C'était une ville complètement bouclée. Et donc, pour pouvoir posséder Jéricho, il fallait posséder par la force. Dis la force. Je vous ai dit ici dans les semaines à venir ou passées que le fait que Dieu ait donné une prophétie à quelqu'un, ce n'est pas tout. Parce que beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de croire que quand Dieu a parlé, c'est fini, on peut aller dormir. Oui, quand Dieu parle, c'est la garantie que le ciel est ouvert. Ça, c'est bien dit. Mais entre le ciel ouvert et la manifestation de la bénédiction, c'est deux choses. Donc le fait que Dieu ait parlé n'était pas suffisant. Parce que regardez l'attitude que Josué a eu. Josué, Dieu a parlé à Abraham. Dieu lui a dit que le lieu là, je te le donne en héritage. Et il a certifié cela à Abraham. Ensuite, il a parlé à Moïse pour dire conduis le peuple quelque part, je leur ai donné ce pays. Mais quand Dieu dit j'ai donné là, ce n'était pas suffisant. Il fallait combattre. Il fallait se battre pour posséder son héritage. Voilà pourquoi Daniel, ayant également compris que Dieu avait prophétisé sur son peuple que 70 ans de captivité étaient suffisants. Et qu'après 70 ans, il allait les ramener à Jérusalem. Quand Daniel a vu la prophétie, Daniel a dit, mais c'est pas vrai. Dieu a prophétisé. Ok, il aurait pu aller dormir pour dire, Dieu a dit, 70 ans après, il nous ramène. Et puis les gens commencent à danser, ils attendent 70 ans. Ils seraient morts tous à Babylone. Mais la Bible dit, Daniel vit la prophétie. Daniel va se mettre dans une posture d'intercession. Il va commencer à prier Dieu. Il va commencer à intercéder. Et la Bible dit, dans la prière, en priant Dieu, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Le roi de Perse va se lever. Et va faire obstacle à Daniel pour dire, Daniel, tu ne peux pas continuer ton affaire là. C'est moi le patron. Le vrai patron, c'est moi. Je vous ai dit, dans toute scène, il y a une autre scène derrière. Derrière chaque situation que tu peux observer, il y a toujours une situation invisible qui contrôle la situation visible. Et si vous ne comprenez pas que il n'y a pas de situation comme ça, alléluia, la Bible dit, le monde visible est sorti de l'invisible. Donc pour influencer le visible, il faut d'abord toucher l'invisible. Un homme qui ne maîtrise pas l'invisible ne va pas contrôler le visible. Alléluia. Ne sachant pas ce qui se passait, lui priait, il intercédait pour que la prophétie s'accomplisse. Mais pendant la prière, la Bible dit l'ange destiné à venir fortifier Daniel et envoyer les instruments de cette prière a été bloqué dans le deuxième ciel par le roi de Perse. Le roi de Perse donc se met entre deux. Mais n'oubliez pas que Daniel a dit que c'est sous le règne du quoi? Du roi Darius. Donc ça veut dire quoi? Il y avait déjà un roi dans le royaume. D'où vient qu'il y a un autre roi qu'on appelle le roi de Perse? Ça veut dire, il y avait un roi physique, il y avait un roi spirituel.
Amen.
Et quand Dieu a réglé le problème du roi spirituel, et que Dieu a envoyé un renfort, et que le roi spirituel Darius a été renversé, et l'ange est passé, le problème a été résolu. Plus tard, Darius a disparu. Hein? Il a été renversé. Alléluia. Mais l'objectif serait quoi? C'est que le peuple retourne. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Frères et sœurs, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas une situation ordinaire. Si vous regardez la crise ivoirienne, vous faites une lecture avec vos yeux physiques, vous n'allez rien comprendre.
Amen.
Vous n'allez rien comprendre. C'est un problème qui est spirituel d'abord. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé au Seigneur pourquoi cette nation est au centre de tant de crise. Est-ce problème financier? Est-ce problème? Je ne sais pas. Mais je sais une chose que Dieu a dit sur la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est une nation importante qui va utiliser pour toucher tous les pays francophones. Elle sera la locomotive au niveau de l'Évangile. Et cette promesse n'est pas une petite promesse, c'est une grosse promesse. Ça veut dire quoi? Si la Côte d'Ivoire est sauvée et que l'Évangile remplit toute la Côte d'Ivoire, tous les pays francophones comme le Togo, le Bénin, tous ces pays francophones-là, alléluia, vont suivre. Alléluia. Et une telle promesse est suffisante pour que Satan dise non. Qu'un tel pays n'avance pas et qu'un tel pays s'arrête d'avancer. Mais je suis venu d'annoncer
Dis amen. Que le peuple de Côte d'Ivoire, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, ne va pas dormir. Nous avons vu la promesse. Et on fera comme Daniel. On ne se laissera pas faire. Dis à ton frère, on ne va pas se laisser faire.
Non, non, on ne va pas laisser l'affaire là dans la même politique. Nous, on a notre rôle. Parce que c'est nous qui décidons, ce n'est pas eux. C'est nous qui décidons de l'avenir des nations. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, ne te laisse pas faire. Il y a quelque chose à gagner dans cette nation. Dis amen. Il y a quelque chose à gagner dans la terre du monde. Dis amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, porte-toi pour changer le cours de l'histoire de cette nation. Dis amen. Alléluia. Maintenant, donc, l'ange va faire quoi? L'ange donc va donner des instructions à Daniel. Première instruction, lisons toujours. Josué 6. Alléluia. Vas-y.
L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours.
C'est bon. Première chose que l'ange dit, il dit quoi? Il dit, vois. Est-ce qu'on peut dire ensemble, vois? Dis ça avec conviction. Alléluia. Donc l'ange dit à Josué, il dit vois. Vois ici est très important comme instruction. Alléluia. Il dit vois. C'est-à-dire Josué devait voir. Si Josué ne voyait pas, ça allait compliquer l'histoire. Il fallait que Josué voie. Pourquoi Josué devait voir, frère? Voir est très important pour obtenir la victoire. Josué devait voir avant sa manifestation. Là où on ne voit pas, on ne peut pas expérimenter le percé. Dis amen.
Amen.
C'est ce qu'un homme voit qu'il expérimente. C'est ce qu'un homme n'a pas vu qu'il ne peut pas expérimenter. C'est pourquoi l'ange dit à Josué, il dit, vois. Il devra voir quelque chose. Voir n'est pas une fonction des yeux, c'est une fonction de l'esprit.
Amen.
Beaucoup de gens pensent que voir est une fonction des yeux. Non. C'est pourquoi tu vas voir des aveugles qui voient bien. Alléluia, qui voit bien. Plus il voit même plus que les gens qui ont les yeux qui marchent. Et tu vois. Dis à ton frère, vois ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu vois. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'expérimenter. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le posséder. Parce qu'on voit. Et quand on a vu, on finit par croire. Et quand on croit, on finit par devenir. Donc c'est une chaîne. Celui qui n'a pas vu ne peut pas croire. Et celui qui n'a pas cru ne peut pas devenir.
Amen.
Mais tout commence par voir. Josué devait voir. Josué devait voir quelque chose que le peuple n'a pas vu. Il devait voir quelque chose. Et tu vois, comme Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie, bien sûr, à partir de 2, verset 11, ou je pense que c'est 1, verset 11, il dit, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu vois bien. Ça veut dire qu'il aurait pu mal voir. Mais Dieu voulait qu'il voie la branche et non l'arbre. Parce que l'arbre était devant lui. Il aurait pu dire, je vois l'arbre. Dieu dit, non, 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 non. Je veux te faire voir quelque chose. Et il a précisé la branche d'amandier. C'est ce que Dieu voulait qu'il voie. Et il dit, tu vois bien. Que vois-tu ce matin? Par rapport à la Côte d'Ivoire, tu vois quoi? Parce que c'est ce qu'un homme voit qu'il expérimente. Et quand vous regardez la vie des chrétiens, il y a beaucoup de défaites, beaucoup de pauvreté, de misère. C'est lié au fait que les chrétiens ne voient que la défaite, ne voient que le problème, ne voient que la calamité. Quand tu les vois parler, tu les entends parler, frère, souvent c'est décevant.
Amen.
C'est ce que tu vois que tu vas expérimenter.
Amen.
Que vois-tu ce matin pour ta vie? Si je demande à deux personnes, tu vas voir qui voit rien du tout. Ils vont te dire, on est dans la crise. On fait confiance au Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai fait mes provisions, je ne sais même pas quelle année prochaine avec tout, il y a une c'est-à-dire, les gens voient la défaite. Mais attends, est-ce que, moi je ne suis pas surpris quand je vois les chrétiens avec une vie haut, bas, mélangée. Parce qu'en réalité, peu sont ceux qui voient.
Amen.
C'est ce que tu vois. Il détermine ta façon de te comporter. Parce que ce que tu vois affecte ta perception des choses dans la vie. Et ta perception des choses dans la vie affecte ta conviction. Et tes convictions, bien sûr, affectent tes actes. Et tes actes
affecte bien sûr ta vie de tous les jours.
Amen.
Quand tu regardes les gens se comporter, tu peux savoir que les gens ne voient rien si ce n'est la guerre qui va arriver dans quelques jours. Non, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? La situation, je peux te dire la situation dans laquelle on est là. L'Église est responsable. C'est nous qui voyons, c'est nous qui avons la capacité de faire réaliser les choses. Les chrétiens, il faut les voir parler, ils parlent même pire que les païens, non. Ce pays-là, il paraît qu'il y a des chrétiens qui disent, pasteur, vraiment, on a fait le programme de lundi mardi là. Vraiment, mais je veux finir à 18h30, c'est bon, hein. Ils ont peur, ils ne veulent pas venir à l'église. Nous, on a fait le programme à Makori. On vient de finir vendredi. Chaque jour, le mercredi, on était à Makori jusqu'à près de 22h. Jeudi, quand ils ont fait la marche, on était à Makori, 22h30, les pasteurs sont entrés. Vendredi, Makori, il n'y a rien. Vous avez peur de quoi? Si Dieu ne te garde pas, ce n'est pas ta maison qui peut te garder. Ta maison peut s'écrouler sur toi. Les gars, c'est fait, c'est bizarre, c'est là où tu vois que l'homme est incrédule. Les gars vont dans ça dit, paquet de ciment, ils ont mélangé un sable. Il met sa confiance dans ciment et sable, ils ont fait un petit truc. Il est là. Laser même, on peut voir, vous pouvez voir dedans. Et il est là, il est dedans. Il dit, je suis chez moi, je suis en sécurité. Il mange, il mange. Toi, tu n'es pas en sécurité, hein?
Amen.
Tu n'es pas en sécurité. C'est Dieu qui donne la sécurité. Dis Amen plus fort. S'il n'a pas permis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui soit dans le chaos, parce qu'on aurait pu être dans le chaos. Je vous assure qu'on aurait pu être dans un chaos. Aujourd'hui, on ne serait même pas réunis pour dire on est en train de prier Dieu. Mais Dieu ne l'a pas voulu.
Amen.
Et le Dieu qui n'a pas voulu hier, c'est pas demain va permettre. Pourquoi tu ne l'attends pas pour lui dire merci? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Qui t'amène?
Amen.
Dieu est bon. Qui t'amène?
Amen.
La Côte d'Ivoire ne va pas périr. Je vous le dis. Je dis pas arrêter de vous faire peur. Je dis la Côte d'Ivoire ne va pas périr. Tous ces gens-là, leur souffle est entre les mains du Seigneur.
Amen.
Demain matin, avant qu'on ne finisse le culte, là, Dieu peut enlever les souffles.
Amen.
Pas ton problème. L'église doit prier. Je dis, si on prie, le salut viendra.
Dieu est toute son église. Parce que si on est là, on bavarde, on a peur, on se plaint, on fait des calculs, on est tout dans son intérêt pour voir. Lui, il a dit quoi? Lui, il n'a pas dit quoi? Et tout cela, ils ont des soucis.
Amen.
Ils ont tous des soucis. Dieu peut enlever leur souffle. Et puis c'est fini. J'ai dit, j'ai vu au Nigeria, à la veille le jour où on devait aller prendre Obasanjo, le président nigérian qui est le dernier là, pour aller l'exécuter, l'armée devait aller l'exécuter, à Bacha. La nuit, il est mort. Dieu a enlevé son. Parce que l'église là-bas n'est pas l'église ici.
Amen.
Là-bas, au Nigeria. Mais allez voir. Vous allez voir que les anglophones, ils jouent pas. Quand il s'agit de leur nation, quand il s'agit de prier, même à Accra, pendant les élections, là, à un moment donné, ça a été un peu chaud. À Tamils et à Koufouado, là, il fallait voir comment les églises ont prié. Il fallait voir la prière jusqu'à un certain niveau. Mais on ne trouve aucune église qui prie dans la situation. Dites-moi combien d'églises qui prient. Combien d'églises qui se mettent ensemble qui prient. Tous les pasteurs ne peuvent pas se mettre ensemble. Fais 3 jours de prière chaque soir, bombardé. On va prier jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h du matin. Les gens n'ont qu'à venir faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Si on prie, Dieu va sauver la Côte d'Ivoire. On se met ensemble, on fait action prophétique, marche des chrétiens. Dans tous les quartiers d'Abidjan, on arrive là et puis on commence à prophétiser. On parle dans l'air, on ordonne à l'air, aux esprits de la puissance de l'air, les démons qui travaillent, on poursuit nos activités, on déclare la paix sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Et chacun est chez lui, chacun parle, chacun dit, chacun est partisan.
Amen.
Alors que ce n'est pas notre rôle d'être partisan. Notre rôle, c'est d'imposer la paix dans la nation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia! La prière.
petit amen. Amen.
Et puis foi, voix importante. Que vois-tu? Ta vie, que vois-tu dans les 6 mois qui arrivent dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a montré par rapport à ta vie? C'est la défaite. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu as vu ton bébé dans les 9 mois prochains. Tu as vu ta promotion. Que vois-tu? Je dis, ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'expérimenter. Tu sais, il ne faut pas combattre sur le réel. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'expérimenter. Voilà pourquoi tous ceux qui ont marché avec Dieu, à un moment donné, Dieu n'a pas seulement parlé à leur vie. Dieu leur a fait voir quelque chose. Il a appelé Abraham. Il dit, Abraham, viens, Dieu te fait voir les choses. Il dit, que vois-tu? Lève la tête. Il dit, je vois des étoiles. Il dit, mais ça, ce sera ta descendance. Il dit, regarde le bois de la mer. Il dit, du sable, ce sera ta descendance. Mais ce n'était pas suffisant que Dieu lui parle. Pourquoi Dieu voulait qu'il voie? Parce que voir est important. Voir fixe dans ton esprit une image. Voir fixe dans ton esprit une image. Et là où il n'y a pas d'image, la perception des choses est erronée. C'est l'image fixée dans ton esprit qui te conduit. Donc à chaque fois qu'Abraham était là, il pensait aux étoiles. Il dit, ah, mais j'aurai beaucoup d'enfants. Quand il voit le sable, il dit, ah, j'aurai beaucoup de descendants. Pourtant, il était seul. Mais l'image était importante. Dieu voulait fixer ça dans son esprit. Il a dit aux enfants d'Israël, allez, je vous fais voir. Il dit, dans la terre où je vous envoie là, il y a du lait et puis il y a du miel. Il voulait fixer une image dans leur esprit. Pour que chaque fois qu'ils soient là, quand c'est chaud, même quand les ennemis dans le désert sont en train de les malmener, en pensant au lait, au miel, qu'ils soient fortifiés. Parce que l'image qu'un homme a de sa vie peut le casser ou peut le monter. Non, non, si tu es fatigué tout à l'heure, tu es fatigué même, tu as travaillé, tu es KO. Et quelqu'un vient et te dit, bon, on veut t'envoyer, tu vas aller faire une couche à Djamé à pied. Tu vas dire, oh, je suis fatigué, je ne peux pas. Mais on dit, bon, moi, Djamé, le meilleur magasin, là où il y a les affaires que tu voulais, là, tout est en solde. La chaussure de 150 000 francs que tu voulais acheter là, on dit maintenant c'est à 1500 francs. Mais il faut, si tu arrives là-bas dans les 30 minutes là, tu auras ça. Tu seras fatigué. Non, tu seras fatigué. Tu as dit, mais je suis trop fatigué. Tu vas te lever d'un bon. Tu vas dire, c'est vrai. Et tu vas courir. Pourquoi? Ce qu'on t'a dit là, t'a donné la force. Parce que tu te vois dans la chaussure. Tu dis, cette chaussure. Cette chaussure. Donc, ce qu'on a comme perception, nous élève ou nous abaisse. C'est pourquoi Dieu voulait qu'il voie. Il dit, vois. Maintenant, il dit, je te donne quoi? Vas-y, lis.
Je lis Jéricho dans tes mains.
Vois, je lis Jéricho dans tes mains. Donc, ce que Dieu voulait que Jésus voie, Dieu voulait que Jésus voie la victoire. C'est-à-dire, rien n'avait commencé. Mais il voulait que Josué, étant chef de l'armée, voie la fin de l'histoire avant le commencement.
Amen.
Alléluia, dites amen. Il voit la fin avant le commencement. Il dit, vois, je te livre. Il n'a pas dit, je te livrerai. Il dit, vois, je te livre. C'est-à-dire, c'est un passé. Un passé, je ne sais pas comment, continue ou bien présent continu. C'est un présent continu. Vois, je te livre. C'est-à-dire, ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est actuel. Jéricho est livré. Je te livre, Jéricho. Il dit, c'est fait. Il n'y a pas, ça sera fait. C'est fait. Donc, là où tu es maintenant, dans ton esprit, c'est fait. Donc, Josué part avec une vision, avec un mental que les autres n'avaient pas.
Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Comment affrontes-tu la vie? Comment faire face-tu? C'est-à-dire, dans quelle posture tu te présentes en faisant face à ton futur? Est-ce que c'est dans une position de défaite avec des idées bizarres? Parce qu'un homme t'a découragé, tu es devenu bizarre, maintenant même tu t'habilles plus bien, jeune fille, tu t'habilles maintenant en naillon parce que tu n'as plus d'espoir. La vie ne t'offre plus d'espoir, tu ne vois plus rien du tout devant. Et vous savez, quand un homme ne voit plus rien, ça commence à affecter son comportement dans la vie. C'est là que voilà, la femme qui s'habillait bien, elle s'habille maintenant bizarrement. Tu dis, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle est Elle n'est motivée par rien du tout. Frère, tu n'es motivé par rien.
C'est-à-dire, il n'y a rien qui a dit, rien ne te pousse. Donc elle est là. Tu vas à l'église, elle met ta tête. Tout ce qui vient à l'église, ta tête, c'est plus des soins. Comment tu peux venir à l'église adorer ta tête comme si elle marchait? C'est le désespoir. Donc, tu sais, quand tu sais vers qui tu vas rencontrer, et ce qu'il est capable de faire pour toi, tu n'as pas de ce qu'il se fait pour toi. Alléluia! Sincèrement, si je ne sais même pas quel exemple donner, c'est tout est mélangé dans ce truc. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Si on dit le Seigneur t'attend quelque part, il veut te bénir. Et je crois que tu vas chercher le meilleur vêtement, tu vas te saper. Bien, même pas, Seigneur, encore c'est grand, mais un homme de certain niveau, une autorité, on dit que le soir aujourd'hui, c'est sûr, le directeur de cabinet te dit, ah là là, il a décidé de te faire grâce. Tu vas aller à Nayon? Non, parce que tu t'attends quelque chose. Ce qu'on t'a dit là, tu te vois déjà dans ta BMW. Tu vas prendre des crédits, tu vas dire au gars, tu dis, tu vas même chez le concessionnaire, tu regardes les voitures d'abord, tu dis, bon, cette Mercedes, ça me plaît. Tu dis au monsieur, je repasse te voir. Tu sais où tu vas. Parce que c'est que quand on entre là-bas, on sent pas les mains vite. Tu es convaincu. Donc tu planifies déjà dans ton esprit ce que tu vas faire après. Alléluia. Donc quand tu vas là, tu mets toutes les grâces de ton côté. C'est ça. Quand un homme a de l'espoir, a vu quelque chose, son comportement suit. C'est pourquoi les véritables hommes de foi, quand tu les vois, tu sais. Tu n'as même pas besoin qu'ils babatent. Quand tu les vois dans leur façon de se tenir et de marcher, tu sais que ça, c'est un homme de foi. C'est un homme qui a vu quelque chose que le commun des mortels n'a pas encore vu. Parce que la plupart des gens ne voient rien du tout. Ils vivent au jour le jour. La vie arrive, et bon, on fait avec. La crise arrive, on fait avec. Quels sont? Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui vont au-delà de la crise. Je vois rien. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Non. Qui se préparent maintenant pour l'après-crise. Parce qu'il va falloir prendre des territoires, il va falloir prendre du terrain, il va falloir posséder des choses. Il n'y a pas beaucoup, même dans leur comportement. Il faut quoi? Quand on dit obéissez à l'éternel, il faut des cadeaux pour dire ah, la crise, on ne sait pas. Hein. Mon frère, au lieu de faire des offrandes, la vie, regardez ton argent, on ne sait jamais. Là, c'est la crise dure. C'est-à-dire, il faut des calculs pour voir ce qui se passe. Ah, le chrétien. Et une fois, je te livre la vie. Je te livre la vie, vois. Que vois-tu? Moi, je vois une église glorieuse. Je vois des hommes et des femmes. Je dis, 2011, je vois des hommes et des femmes dans cette salle. Frères et sœurs, complètement transformés, qui ont changé de niveau, que Dieu a élevé, qui ont leur maison, qui ont leur voiture, qui ont des possessions. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va changer ta vie. Que Dieu va changer ta vie. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Dieu décide et il change ta vie. Tu vas faire plus que ce que tu as fait. Ce que tu as fait n'est rien à côté de ce qui est sur le point d'arriver. Je dis, ce que tu as fait n'est rien à côté de ce qui est sur le point d'arriver. Tu peux fuir la Côte d'Ivoire, car tout le monde est là. Je dis, on est là. Donc, avant de mettre des terrains, on a des maisons moins chères. Même pas toi, je dis, Dieu va te positionner. Parce que quand la Côte d'Ivoire va amorcer, quand la nouvelle Côte d'Ivoire va naître, c'est comme un enfantement qui est douloureux. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va en train de faire sa mue. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a aucune nation qui a été une grande nation qui n'est pas passée dans le monde. Il y a la publicité qu'on a aujourd'hui. Qui ne connaît pas dans le monde? Tout ce qui est actualité dans le monde, donc on dit Côte d'Ivoire. C'est mieux que le frère, le frère ne doit pas voir le monde. Alléluia. Même les Chinois, c'est-à-dire les Chinois, on dit Côte d'Ivoire. Ah, ils comprennent, ils Côte d'Ivoire, c'est bon, on dit Afrique de l'Ouest. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, dites Amen. Alléluia. Adieu. Maintenant, Dieu va donner une stratégie à Josué. Regardez ce qu'il fait. Il dit maintenant, point numéro 1, il dit voir. Alléluia. Vois, je fais quoi? Je te livre.
Jéricho,
oui.
Son roi, ses vaillants soldats.
Mm-hmm.
Il dit, faites le tour de la ville.
Mm-hmm.
Vous tous, les hommes de guerre.
Mm-hmm.
Faites une fois le tour de la ville.
Mm-hmm.
Tu feras ainsi pendant 6 jours.
Amen. Merci. Donc, vous voyez, il dit d'abord à Jérémie de voir. À Josué de voir. Donc, il est important de voir. J'insiste là-dessus parce que c'est le point, c'est l'élément fondamental. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas posséder. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas voir. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas croire la chose. On peut te dire quelque chose. Mais celui qui a vu et celui à qui on a dit, c'est celui qui a vu qui aura une foi plus forte quand la persécution va venir.
Amen.
Beaucoup de chrétiens entendent parler de Jésus. Entendent parler de ce qu'il va faire pour eux. Dieu va te bénir. Dieu va te donner ça. Il va t'envoyer ici. C'est des paroles. Maintenant, au-delà des paroles, Dieu veut que tu vois la véracité. Dites
amen.
Gloire à Dieu. Maintenant, il va donner des stratégies à Josué. Et je vais te parler, il va donner la stratégie qu'il va donner à Josué à trois niveaux importants que je vais te citer. Le premier niveau, c'est quoi? Il dit à Josué, je te donne la ville de Jéricho. Tout le monde dit la ville de Jéricho. Donc, numéro 1, je te donne, vois, il dit, vois, je te donne la cité et la ville de Jéricho. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il donne d'abord à Jéricho un premier niveau de victoire. Et le premier niveau de victoire qu'il donne à Josué, c'est le territoire. Tout le monde dit territoire.
Territoire.
La ville. C'est-à-dire, ce qui est physique. Il lui donne la terre de Jéricho. Il lui donne le territoire. C'est votre promesse. C'est une promesse que je vous ai faite. C'est votre patrimoine. Je te donne la terre. Je te donne le territoire. C'est ce qui est physique. Alléluia. Pour dire quoi? Dans la quête de ton héritage, Dieu va d'abord te donner ce qui est physique, ce qui est naturel. Dites amen. Jéricho, c'était la cité. Cette cité fortifiée que l'ennemi, donc, avait barricadée pour empêcher les enfants d'Israël de passer. Parce que n'oubliez pas une chose, si Israël ne passait pas Jéricho, il ne pouvait pas continuer dans leur héritage. Jéricho était la première ville, la plus grande ville, la ville fortifiée qu'il fallait qu'il passe. Donc, c'était l'étape 1 qu'il devait passer pour arriver dans les autres villes, pour posséder leur héritage. Vous allez voir que très souvent, Satan met toujours devant ton héritage un homme fort, quelque chose de puissant qui est comme la barrière. Quand tu passes cette barrière, le reste devient facile.
Amen.
C'est le cas de David. Goliath était l'homme fort sur son chemin pour le trône. S'il ne passait pas Goliath, il ne serait jamais devenu roi souverain. Il fallait qu'il passe cette barrière. Il fallait qu'il passe l'obstacle de Goliath. David a passé l'obstacle. Plus tard, il est devenu roi. Parce que n'oubliez pas que Goliath a fait des choses dangereuses dans le sens où, quand Goliath a défié l'armée de Dieu pendant 40 jours, si le 40e jour, aucun juif n'avait répliqué à sa provocation, selon la loi, quand quelqu'un te défie 40 jours et tu ne réponds pas, tu deviens son esclave. Donc, il fallait que quelqu'un apparaisse pour ne pas que Israël devienne esclave ou entre sous l'esclavage des Philistins. Maintenant, imagine-toi la nation d'Israël esclave des Philistins. David serait roi sur quoi? C'est pourquoi Dieu sort son joker le 40e jour.
Amen.
Il venait matin et soir. Matin et soir. Donc, le 40e jour, il est venu le soir pour dire la fin est terminée. C'est là le joker de Dieu est sorti.
Amen.
Dieu sort toujours son joker au dernier moment. Dites
amen.
Amen. Et David l'a défié, David l'a vaincu. Et la voie du trône. Donc il fallait que Israël passe ou possède la ville. C'est tout ce qui est territorial. Dieu voulait donner donc le territoire de Jéricho aux Juifs. Dieu voulait leur donner tout ce qui est matériel. Mais ce n'était pas tout. Numéro 1, il a donné la ville. Tout le monde dit avec moi la ville. Deuxième chose, il dit quoi? Il dit, vois, je te donne
son roi.
Son roi. Maintenant, il ne donne pas seulement la ville, mais il donne également le roi. Mais pourquoi il donne le roi? Parce que ça ne sert à rien de posséder la ville sans posséder le roi. Beaucoup de gens souvent possèdent la ville et ne possèdent pas le roi. Voilà pourquoi, quelle que soit la tangibilité ou la grandeur de leurs exploits sur le terrain, ils opèrent toujours dans une sphère inférieure. Amen. Tu vas opérer dans une dimension inférieure jusqu'à ce que tu arrives à posséder le roi de la vie. Amen. Le roi ici symbolise quoi? Symbolise ce qu'on appelle l'esprit, l'autorité ou l'esprit territorial. Parce que sur chaque cité, sur chaque nation, il y a un démon qui est, comme on appelle, l'esprit territorial, qui est destiné ou qui est chargé de désigner ou de donner accès ou de refuser accès à tous ceux qui doivent manger du fruit du pays.
Amen.
Donc, il fallait qu'il possède la ville. Dieu voulait qu'il possède la ville, mais Dieu ne voulait pas qu'il possède seulement la ville, parce que posséder la ville sans posséder le roi, c'est comment on appelle? C'est comme quelqu'un qui est dans une position d'autorité sans pouvoir. Tu vas jouer les rôles inférieurs. Et beaucoup de chrétiens jouent les rôles inférieurs. Ils ont l'impression qu'ils sont prospères. Ça, c'est pas prospérité.
Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de domaines d'activité importants dans la ville, ici en Côte d'Ivoire, où Dieu veut que tu possèdes, où Dieu veut que tu entres, mais comme tu as possédé juste la ville, sans posséder le roi, alors tu es limité quelque part.
Amen.
Parce que le roi, il va s'assurer toujours de garder le contrôle sur ce qui donne le pouvoir réellement.
Amen.
Voilà pourquoi l'Église n'a pas le pouvoir. Parce que pour avoir le pouvoir, il faut avoir le roi avec soi.
Amen.
Amen.
Ça ne sert à rien de posséder la ville. Faire des petites affaires. Et elle dit non, moi je fais chose. J'ai un truc de bissap ici. J'ai un frigo à marquer. C'est bon. Mais ça là, vraiment. Ils ont des bissap un peu partout, dans tous les quartiers d'Abidjan. J'ai des écoles primaires. Ça, c'est une affaire de 6 mois. Après, ça va disparaître. Après, il dit non, il est dans paille. Après, dans paille, il est dans tout. C'est-à-dire, les chrétiens sont dans des activités. C'est-à-dire, ils ont peur dans un règne inférieur. Ils sont pas. Ils n'arrivent pas à décoller. Pour qu'on dise, il y a quelque chose à faire dans cette nation-là, il faut qu'on construise l'église. Si on ne construit pas l'église, ça ne passera pas. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent le territoire. Ils sont là, ils se battent toujours. Je possède l'Abidjan. Au nom de Jésus, je possède mon Abidjan. Je possède toutes les villas d'Abidjan. Continuez à posséder les villas d'Abidjan. Il faut posséder le territoire, mais il faut aussi posséder le roi. Et le roi, c'est qui? C'est celui qui donne accès aux richesses du territoire. Sinon, tu seras sur le territoire. Et puis les portes des richesses te seront fermées. Ça c'est à quoi? Rien. Donc il dit, je te donne la ville, je te donne également le roi. C'est-à-dire les esprits démoniaques, les démons qui contrôlent la ville et qui donnent accès et qui refusent l'accès, je te les donne également. Je donne ton autorité au-delà du visible. De telle sorte que quand tu vas prendre Jéricho, tu ne prendras pas seulement une ville physique, mais tu vas contrôler aussi la sphère spirituelle. Alléluia. Tout amen. Tout amen. Tu veux que l'Église arrive à un niveau de son contrôle ou ton contrôle dans la ville n'est pas un contrôle seulement physique, mais un contrôle spirituel. Tout amen. C'est-à-dire les démons ou les esprits territoriaux qui gèrent ou qui contrôlent la Côte d'Ivoire, Dieu veut que tu les possèdes et que tu. Il puisse entrer sous ton autorité et sous ta domination, de telle sorte que quand tu déclares quelque chose, il n'y a aucun esprit démoniaque qui a la capacité, le pouvoir d'empêcher ce que tu as demandé d'arriver. Tout amen. Si l'Église a le pouvoir, si l'Église a le roi, alors l'Église a la décision finale. Parce que dans un royaume, c'est le roi qui part et puis tout le monde s'arrête. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand Daniel a commencé à prier, le patron de Perse s'est levé. Parce qu'il était en train de prier pour gérer une situation sociale. Il n'a pas tenu compte du roi de Perse. C'est plus tard que Dieu a réglé le problème du roi de Perse. Dans le cas de Josué, Dieu lui dit, il ne faut pas être comme on appelle, naïf. Il faut posséder la vie, mais je te donne également le roi de la vie. Tout le monde dit, je possède le roi de Côte d'Ivoire. La domination n'est pas seulement physique. Elle est également spirituelle. Tout décret que je fais, tout accomplissement, au nom de Jésus, aucun esprit démoniaque, aucun démon de territoire ne peut s'opposer à mes territoires. Parce qu'ils sont tous sous mon contrôle, sous mon autorité, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Il dit, je te donne la vie.
sentir le roi. Alléluia. Quand tu vas posséder l'autorité, quand tu vas posséder le roi, alors tu vas opérer dans une dimension supérieure. Est-ce qu'on peut dire avec moi dimension supérieure? Dis plus fort, dimension supérieure. Dieu veut que tu opères dans une dimension supérieure. Dieu veut que tu quittes les bassesses, tout ce qui est, tu vois, lutte, tout ce qui est, tu vois, on se débrouille, pour entrer dans une dimension où ta parole devient la parole de Dieu.
Amen.
Je ne parle pas à tout le monde ici ce matin, j'ai l'impression. Il y a des personnes dans cette salle que Dieu destine à un niveau élevé. Et frère, si Dieu t'envoie à ce niveau-là, ta parole peut sécher là. Ta parole peut sécher comme une vieille. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je veux que ton autorité. Est-ce que vous savez qu'une seule personne qui a atteint cette dimension en Côte d'Ivoire peut se lever comme ça et puis peut regarder la Côte d'Ivoire et puis peut déclarer des paroles. Et ces paroles-là s'accomplissent à la lettre. Mais regardez l'église, les gens sont là, ils crient, 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 ils arrivent. Le temps de posséder le roi est venu. Le temps de posséder l'autorité est arrivé. On ne peut pas continuer à jouer dans la cour inférieure. Nous sommes l'église. Ta voiture tombe, on parle, tu regardes ta voiture, quand tu regardes la voiture, tu parles sur la voiture. Puis quelque chose arrive. Ta parole devient créatrice. Est-ce que vous savez que c'est possible? Mais Jésus, regardez la vie de Jésus. Jésus à Jérusalem n'était pas seulement le Jésus de l'âge qui fait un miracle. Jésus avait autorité sur terre, dans le ciel et sous la terre. Quand il arrive quelque part, c'est ce qu'il veut faire qu'il fait. Il regarde, il dit quoi, vous voulez quoi? Ok, allez dans l'eau là-bas, attrapez-moi des poissons. Mais quand il a dit, allez attraper le poisson là, frère, en même temps, ce qu'il veut là, entre dans le monde du poisson. Il regarde le figuier, tu refuses de lui donner ce qu'il veut. Il dit, figuier, tu sèches maintenant. Et puis c'est fait. Il ne pense même plus à ça, c'est déjà fait.
Amen.
C'est un disciple qui remarque en passant que, hé, hey, il dit, mais moi, je suis comme ça. Quand ta parole marche, il dit non. Il dit en même temps, mettez-vous. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. C'est pas ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu.
Amen.
En même temps, si qui te dit et toi, il le fera. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit quoi, qui voit.
Amen.
Vous savez?
Amen.
Celui qui n'a pas vu, même s'il dit quoi, il fera. Parce qu'on voit avant de voir.
Amen.
Dis on voit avant de voir.
Amen.
Tu ne vois pas? Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas voir. Alléluia. Alléluia. Oui, donc Jésus avait telle autorité qui dépassait, et c'est ce que Dieu veut que tu aies ce matin. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'hommes et de femmes de certains niveaux d'onction, de telle sorte que n'importe quel démon ne peut pas entrer dans ce pays-là et faire ce qu'il veut.
Amen.
Mais Dieu compte sur toi ce matin.
Amen.
Dieu compte sur toi ce matin.
Amen.
Troisième élément, il dit quoi? Je te donne quoi?
Les vaillants soldats.
Je te donne les vaillants soldats. Ceux qui gardaient Jéricho étaient des vaillants soldats.
Mais ces vaillants soldats-là étaient sous l'autorité du roi.
Ça veut dire quoi? Dieu veut dire ici que dans ta quête de posséder les territoires, non seulement il va te donner le territoire, il va te donner les chefs, le patron même, l'autorité, l'esprit qui gère le territoire, et il va te donner également tous ces vaillants héros et ces soldats. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont tes adversaires dans ton business, tous ceux qui sont comme tes concurrents dans ce que tu fais là, tu vas les vaincre. Pourquoi? Parce que le roi est déjà avec toi.
Amen.
En d'autres termes, personne ne pourra te résister. Voilà. Tu as les agents du roi qui font le roi. Tu as les soldats, c'est eux qui gardent la ville, c'est les puissants gardes. Donc tous ceux qui sont dans la ville, qui travaillent pour le roi là, Dieu dit que les donne également. Ça veut dire quoi? Dans ton cheminement, dans ton progrès, dans l'établissement de la volonté de Dieu, aucun homme ne pourra te. Ils vont venir, tu vas faire affaire, ils vont faire affaire. Ils tombent sous ton pouvoir. Tu as le roi avec toi, tu as l'autorité. Celui qui donne accès et qui fait accès là, tu as ça. Tu as pris l'autorité. Donc tu deviens comme une principauté.
Amen.
Est-ce que vous savez que Dieu a des principautés dans la nation?
Amen.
Non, tu sais ça? Que Dieu a des principautés dans la nation.
Amen.
S'il ferme ta vie est fermée.
Yes.
S'il ouvre ta vie, personne ne peut fermer.
Amen.
Voilà ce que Dieu veut que tu sois. Ta parole devient la parole de Dieu.
Quand tu lances un décret, c'est un décret. C'est pourquoi quand tu es un chrétien, il ne faut pas trop parler beaucoup. Tu parles ici, tu. À un moment, ta parole ne ressemble plus à rien. Même les bouches, tu parles, la bouche ne bouge pas. Tout le monde n'a plus peur de toi. Même les animaux n'ont plus peur de toi. Non. Il faut être calme. Alléluia. Quand tu parles, la chose arrive. Je te donne les moyens. Dans le domaine de ton activité, tu auras le merci au nom de Jésus. Si c'est dans le riz, si c'est dans la voiture, si c'est dans quel que soit le domaine d'activité que tu vas, lève la main droite, dis je déclare. Au nom de Jésus. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel j'opère, je prends le dessus sur mes concurrents, sur mes adversaires. Au nom de Jésus. Parce que j'ai le roi avec moi. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Amen. Josué, avant même que la bataille ne commence, Dieu n'avait même pas encore communiqué la stratégie de bataille. Hein. Mais il a d'abord donné à Josué la fin de l'histoire. Il a donné à Josué la vie. Il a donné à Josué le roi. Il a donné à Josué le peuple. Les vaillants soldats gardent la vie. L'affaire est finie. Josué a vu, il a reçu. J'ai dit, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Parce que là, on est juste à la première partie. Parce qu'après, on va arriver à la stratégie. Comment Dieu va procéder pour écouler les murs de Jéricho? Jéricho était une forteresse. Et n'oubliez pas que les Israélites disent que les murs de Jéricho étaient doubles. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas un seul mur. Il y avait un grand mur. Mais ce grand mur était deux fois. Ça veut dire quoi? Même quand vous tombez le premier, le deuxième est là. C'était une vraie forteresse. Mais comment Dieu va écouler cette forteresse-là? C'est comme ça que toutes les forteresses de ta vie vont se trouver. C'est comme ça que toutes les forteresses autour de la Côte d'Ivoire vont se trouver. Mais il fallait d'abord que Josué voie ces choses, croie ces choses, accepte ces choses-là d'abord. C'est le préalable. Il fallait l'accepter. C'était un combat spirituel et Dieu a donné à Josué un
certain nombre de points importants
pour qu'entrant dans le combat, qu'il est là pour toi. Si ce matin seulement tu peux croire la parole de Dieu, il n'y a rien qui va te laisser.